Aujourd'hui, tout le monde ou presque a oublié le prince impérial, fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Mais dites-vous que de son vivant, celui qui était appelé à devenir Napoléon IV fut littéralement adulé par les Français. La chute du Second Empire l'a abattu en pleine jeunesse, elle l'a conduit à l'exil et à ses humiliations. Étrange destin tout de même, une enfance de rêve, de féerie, de bonheur intégral. Dites-vous bien qu'à sa naissance en 1856, il est le fils d'un empereur déjà bien avancé en âge, puisque Napoléon III a presque 50 ans, et d'une impératrice qui attendait en vain depuis 3 ans de donner un héritier au régime. Autant dire que le père se montre d'entrée de jeu « papa gâteau » et la mère en extase devant ce petit miracle vivant, qui plus est, très bel enfant. On dit que les peuples heureux n'ont pas d'histoire, eh bien les jeunesses heureuses ne présentent pas non plus grand-chose de bien passionnant. Il faut imaginer le petit prince impérial, surnommé Loulou, il s'appelle en fait Eugène Louis, prince chéri des Français, en tout cas dans leur écrasante majorité. Il faut l'imaginer faisant perdre la tête à ses nourrices, puis à ses gouverneurs, dans des palais où tout n'était que fêtes, bals, chasses et promenades. C'est cette époque insensée, extrêmement brillante de la fête impériale, des grandes soirées des Tuileries et des séries de Compiègne. Le seul souci de Loulou dans la vie, encore n'en est-il pas vraiment conscient pour le moment, c'est la sollicitude pesante de sa maman. Il est vrai douce et attentionnée, mais sans doute trop attentionnée. On peut dire que Eugénie est une mère abusive qui a tendance à couver son enfant au point peut-être de lui inspirer de la gêne, ce que nous appellerions aujourd'hui un complexe. Ainsi, quand, à l'âge de 14 ans tout de même, le prince est autorisé à accompagner son père à la guerre, on est en plein dans la funeste campagne de 1870, on va voir l'impératrice fondre en larmes, couvrir son fils de baisers en public, ce qui est toujours un peu embarrassant pour un adolescent, et suivre ses faits et gestes par dépêches interposées. Lors de l'engagement armé de Sarrebruck, l'empereur, tout fier, télégraphie à sa femme une dépêche confidentielle pour lui dire que Loulou a subi très courageusement l'épreuve du feu, si courageusement même qu'on l'a vu sous la mitraille, précise l'empereur, ramasser une balle tombée à quelques pas de lui. L'impératrice est ravie, elle est émue aux larmes, elle se laisse aveugler par la fierté maternelle et elle montre la dépêche à tout le monde, au point que le premier ministre croit faire sa cour en la faisant publier au moniteur. Vous imaginez l'effet produit, la presse satirique s'empare aussitôt de la nouvelle et ironise à l'infini, on n'appelle plus Loulou que l'enfant de la balle ou le ramasseur de balles perdues. Un jour, ces articles tomberont sous les yeux de l'adolescent et ça lui fera très mal. Pour l'instant, ce qui lui fait mal, c'est d'assister à l'impuissance de son père malade, au désastre militaire de 1870, à la débâcle généralisée et à sa propre fuite vers l'Angleterre via la Belgique, alors que le régime dont il était hier encore le vivant espoir s'effondre dans un climat de haine et de désolation. Fini la vie de prince charmant pour conte de fées modernes, Loulou va découvrir l'existence infiniment amère d'un prince déchu en exil, de quoi forger en lui une âme d'aventurier. Voilà ce jeune héritier, petit-neveu du grand Napoléon Ier, habitué des palais impériaux et de la vie de cour et qui n'imaginait son avenir, c'est tout naturel, que sur le trône de France. Le voilà réduit, du jour au lendemain, à l'existence précaire d'un jeune réfugié vivant dans une maison bourgeoise du Kent. La maison s'appelle Camden Place, entre ses parents dépressifs et d'anciens serviteurs partagés entre l'amertume et la pitié. Or, très vite, dès 1873, le père meurt et pour le jeune homme, qui n'a pas 18 ans à ce moment-là, la situation devient vraiment lourde à supporter. D'un côté, il est maintenant en première ligne sur un plan dynastique et politique. En cas de rétablissement de l'Empire, ce qui est l'obsession de tout son entourage, dans ce cas de figure, c'est bien sûr lui qui deviendrait empereur. Seulement, il est bien jeune, il n'a jamais fait ses preuves dans aucun domaine, pire, il se trouve en butte à l'hostilité de certains au sein même du mouvement bonapartiste. D'un autre côté, Cette position de prétendant au trône lui vaut la défiance appuyée, pour ne pas dire hystérique, de la toute jeune République française, qui ne devient d'ailleurs une République qu'en 1875 et encore à une voix de majorité. Les républicains de France se déchaînent contre ce prétendu Napoléon IV qu'ils ridiculisent sous le moindre prétexte à longueur de libelle. Enfin, et j'ai envie de dire surtout, la mort de ce père qui déjà était un peu fantomatique, cette mort place le jeune homme sous la coupe directe de sa mère. L'échappatoire du prince impérial devant ce coup du sort extrêmement rude, c'est l'Académie militaire de Woolwich, où il est inscrit depuis 1875. Là, on peut dire que, dans un esprit de jeunesse, d'aventure, il va côtoyer de jeunes Anglais de bonne famille, qui le respectent et qui l'apprécient. En lui, la fibre militaire des Bonaparte a tendance à ce moment-là à se réveiller, et le jeune prince déchu, pour éviter de se laisser ronger par l'amertume, imagine des chevauchées héroïques et des reconquêtes dignes de son sang. Or, en 1879, un événement banal en apparence va donner un début de réalité à ce rêve d'évasion. Le 11 février, l'Angleterre vient d'apprendre comme un coup de tonnerre la nouvelle du désastre d'Isan de Luana en Afrique du Sud, où un régiment britannique vient d'être taillé en pièces par une horde de Zoulous dirigée par le roi Sethezwayo. Aussitôt, le pays se mobilise contre l'insurrection de ce qu'on considère alors comme des sauvages, on met sur pied des renforts et tout le monde veut en être. Le jeune prince, qui voit s'enrôler tour à tour la plupart de ses compagnons d'armes, rêve de partir lui aussi faire la guerre là-bas, au bout de l'Afrique, et sans en parler à sa mère, dont il devine la réaction au mot près, il effectue des démarches auprès des autorités britanniques pour être intégré à un régiment. Naturellement, le cabinet d'Israeli n'est pas enclin à froisser le gouvernement de la République française, ni à prendre la responsabilité d'un jeune soldat au nom tout de même très prestigieux, et le prince reçoit une fin de non-recevoir. Alors, que faire en pareil cas? Eh bien, Loulou va faire ce qu'il a toujours fait, à la moindre difficulté, il va aller se plaindre à maman. Avec toutes les précautions d'usage, il explique donc à sa mère son besoin d'aller faire la guerre contre les Zoulous, sa démarche discrète auprès des autorités britanniques et le refus sans appel qu'on lui a opposé. Naturellement, comme il s'y attendait, Eugénie pousse d'abord les hauts cris. Elle traite son fils d'inconscient, elle lui ordonne de chasser tout de suite cette idée de sa tête. Seulement, la détermination du jeune homme est plus forte. Et cette mère, qui souffre de la situation réservée par le sort à ce fils qu'elle adore, cette mère qui s'en veut quelque part de n'avoir pas su lui léguer le trône à l'ombre duquel elle l'a élevé, cette mère plus intelligente, plus intuitive, plus humaine sans doute qu'on a bien voulu le dire, finit par céder aux caprices de son beau soldat de fils. Or, l'impératrice, quand elle s'occupe d'une cause, est le plus efficace des agents. La mort dans l'âme, à son corps défendant, mais avec la conscience intime d'œuvrer à l'épanouissement de son enfant, elle va donc se rendre elle-même chez la reine Victoria, et mieux que ça, elle convainc la souveraine de faire pression sur son gouvernement pour donner satisfaction aux petits. Au passage, il faut savourer l'ironie de la situation. Une reine d'Angleterre qui oblige son gouvernement à intégrer le petit-neveu de Napoléon dans les troupes d'Albion. Il n'empêche, le Premier ministre est bien obligé de donner son accord pour que le prince Eugène Louis Bonaparte puisse se joindre aux troupes de sa gracieuse majesté en route pour le Zoulouland. Eugénie apprend le succès de sa démarche et paradoxalement, elle fond en larmes, bien sûr. Le jeune prince a mis un point d'honneur à reprendre pour son pactage les équipements utilisés par son père en 1859 en Italie et en 1870. Un de ses amis lui fait remarquer que les sangles qui tiennent la selle sont un peu usées. « Allons, dit le prince, elles feront bien encore cette campagne. » Il a tort de prendre ça à la légère, mais que voulez-vous, il est tellement content. L'impératrice aurait aimé suivre son bateau jusqu'à Madère, seulement Loulou lui a expliqué que ce n'était pas l'habitude dans l'armée. Alors elle l'accompagne quand même jusqu'à Southampton et se fait montrer la cabine, en réalité celle libérée par le capitaine, qu'on a réservée à son fils. Elle donne aussi ses recommandations au vieux valet de chambre Ullman qui accompagnera son jeune maître en tant qu'ordonnance. Le prince impérial est un peu déçu. Il a compris qu'il va encore bénéficier contre son gré d'un régime de faveur. Lui qui voulait passer inaperçu et se fondre dans la masse, eh bien voilà que les journaux, tant en France qu'en Angleterre d'ailleurs, voilà que les journaux font leur titre sur son engagement. Le voyage par mer est fort long et fort ennuyeux. Mais le prince est tellement heureux d'avoir l'occasion de montrer ce dont il est capable que sa bonne humeur n'en est pas affectée. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un recoin de ses bagages, il emporte avec lui la coupure fielleuse d'un de ces journaux français qui, rappelez-vous, avait si durement ironisé sur la balle de Sarrebruck. En Afrique du Sud, la population lui réserve un accueil littéralement délirant. Les gens sont émus aux larmes par ce beau prince français qui vient les aider à combattre les Zoulous. À Cape Town, à Durban, les réceptions succèdent aux grands dîners où toutes les mères un peu ambitieuses mettent en avant leurs filles bonnes à marier. Deux semaines plus tard, il est sur pied lorsque Lord Chelmsford, qui commande la région militaire, rentre à son état-major après une tournée d'inspection. Il s'avoue bien embarrassé par ce soldat très spécial qui arrive de Londres avec les recommandations du Premier ministre et l'affection de la reine en personne. Et il décide de l'affecter au poste d'observateur dans son état-major, ce qui permettra de garder un œil sur lui, tout en lui offrant l'opportunité de missions a priori pas trop dangereuses dans la brousse. Le prince est fou de joie. Avant de partir, il s'est acheté un nouveau cheval nommé Percy, et il a engagé deux jeunes Anglais pour lui servir d'ordonnance à la place du vieil Ullman, qui restera à Durban. Il a maintenant rejoint son poste. Il fraternise avec les jeunes officiers ravis de compter un vrai prince dans leur rang et il commence ses patrouilles de reconnaissance. Le 19 mai, il essuie la première confrontation avec des guerriers zoulous, très maladroits, il faut bien le dire, au maniement des armes à feu. Quelques balles passent quand même assez près. Le prince montre tant de courage, tant de sang-froid dans l'affrontement que le major baptise le kraal, c'est-à-dire le village pris aux rebelles, kraal Napoléon. Le samedi 31 mai 1879, veille du dimanche de Pentecôte, le prince impérial est affecté à une patrouille vers Ulundi avec pour objectif la traversée de la Blood River, la rivière de sang. Le groupe, qui comprend 6 hommes, tous volontaires, est placé sous les ordres du capitaine Carey. L'après-midi du lendemain, dimanche 1er juin, la petite troupe parvient au confluent de 2 rivières, au lieu dit Itiotiosi, où elle trouve un kraal apparemment déserté depuis peu. Alors on met pied à terre, on va chercher de l'eau pour faire du café, le prince commence tranquillement ses relevés topographiques, mais un des hommes vient d'apercevoir une tête crépue derrière les hautes tiges de maïs. Il est grand temps de lever le camp. Le prince impérial range ses crayons, il se dirige vers son cheval quand soudain, surgissant des maïs, une 50aine de Zoulous hurlants prend le groupe par surprise. La plupart des hommes ont tout juste eu le temps de mettre un pied à l'étrier. Un des soldats est touché par balle, il s'écroule. Un deuxième est désarçonné et massacré sur place. Les autres, pris de panique, s'enfuient au grand galop. 2 hommes seulement n'ont pas eu le temps d'enfourcher leur monture. Un dénommé Le Toc, qui parvient quand même à grimper sur son cheval, et le prince impérial, qui s'agrippe à la courroie de sa selle, cette fameuse courroie usée, qui cède et le laisse seul face aux Zoulous. Dans sa chute, le jeune homme s'est blessé à la main droite, il a perdu son sabre. De sa main gauche, il tire 3 coups de revolver, mais cela n'immobilise pas longtemps les guerriers qui se précipitent sur lui, armés de sagaies. On retrouvera sur son corps les traces de 17 coups de sagaies, tous donnés de face. Et plus tard, quand on interrogera les Zoulous, ils diront que le garçon s'est défendu comme un lion. Pourquoi dites-vous un lion? Parce que c'est l'animal le plus courageux que nous connaissons. Imaginez la stupeur et la consternation dans le corps expéditionnaire britannique à l'annonce de cette mort terrible. Dès le 2 juin, à l'aube, des recherches sont entreprises. On retrouve les 3 corps entièrement nus, Deux ont été massacrés, mais le troisième a été laissé tel quel, par égard pour la bravoure du jeune soldat. On lui a même laissé autour du cou les médailles sacrées qu'il portait. La dépouille du jeune prince prend le chemin du retour, accueillie à chaque étape par des salves d'honneur. Un peu avant la destination finale, le vieil Ullmann, agité de sanglots muets, est venu à la rencontre de son maître. La scène est pathétique, on voit le vieux serviteur se jeter sur le cercueil avec des cris de douleur. On ne le forcera pas moins à reconnaître la dépouille. La nouvelle de cette mort tragique remonte vers Londres un peu plus vite, mais pas tellement plus vite que le détachement funèbre. Le message télégraphique ne parvient à Londres que le 19 juin. Le premier ministre d'Israéli est aussi furieux que consterné. Si seulement la reine l'avait écouté. Maintenant, il faut aller la prévenir, la reine, à Balmoral, en Écosse. Lorsqu'on lui annonce la chose, Victoria demeure hébétée. Elle se fait répéter deux fois la nouvelle. La reine se couche en larmes, elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle se relève, elle ordonne qu'on prévienne la mère du prince impérial avant que la presse ait eu le temps de le faire. C'est Lord Sidney que l'on dépêche auprès du duc de Bassano. L'impératrice Eugénie, dès qu'elle aperçoit le visage défait du vieux duc, comprend ce qu'on est venu lui annoncer, alors elle s'évanouit. Toute la journée durant, elle ne va cesser de revenir à elle et de reperdre conscience. La reine et le peuple anglais sont blessés dans leur orgueil national. Eux voudraient des funérailles grandioses, mais c'était compté sans la mesquinerie du gouvernement de la République française qui fait une pression terrible sur le cabinet britannique pour que l'événement soit minimisé. Le cercueil du jeune prince arrivera à Camden Place dans la soirée du 10 juillet. Il y est veillé toute la nuit. Le lendemain a lieu la très belle cérémonie à laquelle Victoria est présente. L'histoire pourrait s'arrêter là, seulement elle possède un curieux épilogue. L'année suivante, en 1880 donc, l'impératrice Eugénie va profiter de la paix revenue aux Zoululand pour entreprendre elle-même le voyage jusqu'au Natal afin de se recueillir sur le lieu même où son fils était tombé. Rien ne l'arrêtera, ni les fatigues, ni les fièvres, ni les campements inconfortables. Sur place, les officiers britanniques font leur possible pour mener cette mère éplorée sur les traces de la tragédie, seulement personne n'a pris la peine de noter l'endroit avec précision. Le soir du 30 avril 1880, la nuit approchant, on dresse le camp de l'impératrice une fois de plus. Autour d'elle, tout le monde s'est depuis longtemps découragé, mais Eugénie tient bon. Dans la nuit, elle est réveillée par une senteur de verveine qu'elle connaît bien. C'est le parfum de son fils. Alors elle se lève, elle quitte la tente, et comme guidée par cette effluve, elle s'avance seule dans le petit jour à travers les hautes herbes. On la dirait guidée, conduite. Quelques dizaines de mètres plus loin, la mère d'Eugène Louis s'arrête. Elle vient de trouver toute seule, sans l'aide de rien, ni de personne, un petit tumulus caché par les hautes herbes. Un tumulus édifié l'année précédente, à l'endroit précis où son fils était tombé.